L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission quotidienne L'AJT du local, pas nouvelle émission mais nouvelle édition de ce mardi 17 novembre. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde.
Claire, donc toujours en direct de nos studios à Laval. Et aujourd'hui, on va parler justement des maisons de quartier de Laval, où tu t'es rendue Claire, qui sont quasiment fermées au public, sauf pour les enfants qui viennent faire leurs devoirs avec le dispositif classe. Tu as donc rencontré l'animateur et les enfants qui y participent. Et puis autre sujet, si la nouvelle vague de l'épidémie était ralentie par les tests antigéniques, c'est le pari de Frédéric Grasset qui propose des centaines de tests aux professionnels de santé du département. Et on continue notre série auprès des commerçants de Château-Gontier qui subissent et ou s'adaptent au confinement. Vous entendrez en fin d'émission l'une des responsables de la boutique des créateurs. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité, Claire.
Le nombre de bénéficiaires du RSA en hausse en Mayenne.
4 500 personnes environ bénéficient du revenu de solidarité active, soit 20% de plus qu'il y a un an. En cause, la fin des contrats courts et des contrats d'intérim, selon Olivier Richefou, le président du département. Le département qui doit donc verser une provision de 4 millions d'euros dans son budget modificatif, en prévision du règlement du solde des allocations RSA en 2020.
La Ligue des droits de l'homme de la Mayenne s'oppose à la proposition de la loi Sécurité globale.
Présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans un courrier adressé aux députés mayennais, la Ligue des droits de l'homme dénonce un texte liberticide qui prévoit, je cite, « d'instaurer une surveillance généralisée de l'espace public en autorisant l'État à utiliser des drones avec caméra et la pénalisation de la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes empêcherait tout contrôle citoyen, voire le travail des journalistes ». Fin de citation. Quant à lui, le député du Nord Mayenne, Yannick Favennec, s'est dit inquiet de la possible atteinte à la liberté de presse.
Les oubliés du Ségur se mobilisent à Château-Gontier.
Une manifestation est prévue cet après-midi devant l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne à l'appel de la CGT. Les agents du service de soins infirmiers à domicile réclament le versement de la prime de 183 euros mensuels pour tous les agents hospitaliers. À l'initiative de la sénatrice centriste de la Mayenne, Elisabeth Doineau, plusieurs dizaines de parlementaires ont envoyé un courrier au ministre de la Santé, Olivier Véran, avec une incitation au dialogue avec les professionnels de santé qui justement n'ont pas bénéficier des revalorisations prévues par le Ségur.
En Mayenne, de part épinglée pour avoir ouvert au public.
Les gendarmes mayennais ont réalisé ce week-end de plusieurs contrôles dans le département et sont notamment intervenus dans deux bars, sans préciser lesquels, qui avaient ouvert leurs portes au public alors que c'est interdit depuis le début du reconfinement le 30 octobre. Les gérants et les clients ont donc été verbalisés.
Nouvelle collecte de sang à Laval ce mercredi.
Il est d'autant plus important en cette période de donner son sang et c'est possible à Laval demain de 15h15 à 18h45 au quartier Ferrier. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang, monrendezvousdondesang.efs.santé.fr.
Sur le vent des globes, Fabrice Amedeo tente de rattraper son retard.
Et de contourner la tempête Theta à proximité des côtes marocaines. Toujours avant-dernier de la course, le skipper segréen attend un alizé puissant pour définitivement rattraper le retard sur ses concurrents et revenir dans la course. Sur son bateau VNB Mayenne, Maxime Sorel, lui, est 14e au dernier pointage à midi. Et puis, vous le savez, pour ce deuxième confinement, les écoles sont ouvertes. Alors pourquoi pas l'aide aux devoirs? Le service est maintenu dans les différentes maisons de quartier de la ville de Laval. Et Claire, tu as rencontré différents enfants et animateurs pour comprendre tout l'enjeu de maintenir ces temps entre école et maison.
Et oui, direction la maison de quartier des Fourches à Laval. Alban, l'animateur, nous explique le fonctionnement des classes, les contrats locaux d'accompagnement à la solidarité.
Je suis Alban, je suis animateur à la maison quartier des Fourches, ça fait 10 ans maintenant. Donc la différence entre le premier confinement et le deuxième, c'est que bon, au premier confinement, la maison de quartier a totalement été fermée. Le deuxième, nous avons l'autorisation de rester ouvert pour un accueil au public et puis pour certains projets. Alors on travaille sur les groupes que avec le groupe classe. Donc le classe, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc c'est des enfants qui sont orientés par l'école et pour qu'on les aide dans le cadre scolaire. Alors ce n'est pas forcément que les leçons, ça peut être une ouverture culturelle, c'est travailler sur la confiance en soi, c'est travailler sur l'estime de soi, sur apprendre à être élève, à s'organiser, enfin, plein de choses comme ça. Notre travail, c'est pas de leur apprendre à lire, c'est de les soutenir et de leur donner confiance sur leurs apprentissages. Alors ils sont plutôt participatifs, enfin voilà, ils sont plutôt partants, ça se voit d'ailleurs, enfin, ils sont même demandeurs de ce qu'on les accompagne. Là j'ai un petit, je pouvais pas parce que j'étais avec les plus grands, il m'a dit bah viens, tu viens quand ? Enfin voilà, donc non, ils sont plutôt participatifs. Cette année on a reconduit le projet de l'année dernière qui n'a pas été pu être finalisé, donc on travaille sur un kamishibai.
On retrouve Alban et Natacha, une autre animatrice, dans leur classe pour nous expliquer ce fameux projet Kamishibai.
Donc un Kamishibai, c'est un genre de petit théâtre japonais, mais qui en fait utilise plutôt le dessin. Et en fait, le dessin est devant et l'histoire se trouve derrière. Donc on est caché derrière cette sorte de chevalet et on voit les dessins devant. Et donc c'est les enfants qui vont raconter leur histoire aux parents. Après qu'ils aient tout réalisé, puisqu'ils ont réalisé le Kamishibai en bois, ils ont fait l'histoire, ils vont la dessiner et ensuite ils vont mettre en scène. Donc ça, c'est le projet sur toute l'année.
Je m'appelle Natacha Tellier, ça va faire 4 ans que je suis aux classes des Fourches. Et du coup, donc là, je fais les leçons avec Noémie qui est en CP à l'école Charles Perrault. Enfin, par expérience, les autres années, oui, il y a vraiment de l'évolution positive pour les enfants. Le classe est très important. Ça les aide beaucoup et le fait de se retrouver aussi avec d'autres enfants pour faire les leçons en groupe, je pense que c'est aussi une motivation. On voit de l'entraide entre les enfants. Le soir, quand les parents viennent chercher les enfants, on essaye d'avoir un petit temps d'échange avec les parents. Et ils aiment bien aussi savoir comment ça s'est passé aux classes. Donc on essaye de prendre le temps. La maison de quartier, c'est un lieu important pour les personnes. Donc je pense vraiment que c'est important que ça reste ouvert.
Pour rester ouvert, justement, la maison de quartier fait appel à des bénévoles. Alban nous explique.
Alors, on a toujours besoin de bénévoles. Après, ça dépend du souhait des bénévoles parce que être bénévole, c'est donner de son temps, mais c'est aussi recevoir. Sinon, ça a beaucoup moins de sens de donner de son temps. Donc, sur le classe, on a quand même déjà 6 bénévoles. Mais on a de la possibilité d'accueillir de nouveaux bénévoles dans le cadre du classe. Sur d'autres temps de bénévoles, la maison de quartier, puisque la maison de quartier est ouverte toute l'année sur différentes animations, ça peut être du soutien à la langue française, ça peut être des actes de solidarité, ça peut être plein de choses. On a toujours besoin de forces vives, même si la période fait qu'on ne les sollicitera pas sur le moment. Mais les forces vives sont toujours les bienvenues.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter mq.fourche@laval.fr.
Merci Claire. Et si les tests antigéniques permettaient de ralentir l'épidémie de Covid, c'est le pari de Frédéric Grasset qui en propose aux professionnels de santé mayennais. Des tests rapides encore peu disponibles. On rentre dans le détail après la pause musicale. On écoute Monkey de FFF.
Yeah.
êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Il avait déjà fait parler de lui lors de la première vague de l'épidémie en distribuant des masques aux Mayennais. Cette fois-ci, Frédéric Grasset s'est équipé en tests rapides antigéniques. Le gérant de France Implants et Conseils, basé à Montsûr, espère fournir les médecins et infirmières avec ces tests aux résultats en 30 minutes maximum. L'objectif, ralentir la circulation du coronavirus et éviter les clusters. Encore peu connus du grand public, c'est pourtant une solution incontournable pour Frédéric Grasset.
Moi, les tests antigéniques, ça fait déjà 4 semaines où je suis sur le projet. C'est des tests qui sont maintenant disponibles depuis 2 mois, c'est nouveau. Et on les appelle les TRA, les tests rapides antigéniques. Donc ça fait maintenant, moi j'en ai en stock, ça fait déjà une semaine et demie.
Ils sont encore pas forcément très connus du grand public. Est-ce qu'on peut justement déjà expliquer ce que sont ces fameux tests ?
Alors les tests, en fait, ce sont c'est simple, c'est un outil de diagnostic qui est en fait une aide à la prise de décision pour identifier les personnes porteurs du virus. En tout cas, ce qu'on recherche, c'est l'antigène. Donc on arrive à détecter avec ce test-là le virus dans le corps humain avant qu'on ait les symptômes. L'antigène, c'est une protéine qui enveloppe la COVID-19. Et en fait, lorsqu'on est porteur de ces virus, on va sécréter toutes ces substances. Et grâce à des couvillons prélèvement nasopharyngés, on va récupérer de la charge et on va l'analyser dans un petit réactif. En fait, il y a tout un processus dans une boîte. Et donc, une fois qu'on a fait la révélation, on le passe sur une plaquette et on a le test en instantané. Donc on a le résultat si on est porteur ou non du virus.
C'est aussi une différence avec les fameux tests PCR qui sont développés depuis déjà plusieurs mois, c'est la rapidité.
Voilà, là maintenant c'est en instantané. Alors le RT-PCR, c'est beaucoup plus fiable, on va dire, au niveau de l'analyse biologique. Là, ce qui est intéressant de savoir, c'est si on est porteur ou pas, pour casser les chaînes de transmission. Ça veut dire que, imaginons l'ambulancier, il se sent un peu fatigué ou il a été qu'à contact, il a un doute, il a mal mis ses équipements, eh bien, il peut se faire ce test et il va savoir si du coup il a été contaminé ou pas. Ça évitera qu'il aille chez tous ses patients, qu'il transporte les virus chez les uns et chez les autres et puis qu'il tombe malade au bout de 7 jours ou 8 jours. Et là, donc, il aura vu beaucoup de monde et là, on aura propagé l'épidémie. Donc là, c'est vraiment un outil pour casser ces chaînes de transmission et éviter de donner de l'avance au virus. On va avoir une cartographie en instantané de la situation. Ça peut être des équipes de pompiers où ils peuvent se contrôler chaque semaine et du coup on va savoir qui est porteur ou pas du virus, soit on l'amène de la maison ou soit on l'a contaminé pendant les interventions. C'est vraiment la rapidité de l'analyse. Aujourd'hui, en instantané, on sait si on est porteur ou pas du virus et même avant les symptômes.
Et justement, c'était ma question suivante. Ça s'adresse aussi, peut-être même surtout, à des personnes qui n'ont pas encore de symptômes, mais qui ont des doutes.
Voilà, des doutes, des cas contacts. Des doutes, en fait. Hein. Il faut aussi faire des prélèvements sur des personnes asymptomatiques, des personnes où on ne sait pas. Donc, il faut aussi avoir quelques données. Tester des personnes qui ont les symptômes, des cas contacts et d'autres personnes au hasard pour évaluer diagnostiquer l'épidémie. Hein. Il faut aussi ces analyses. Hein.
Mais si on est une personne à risque, il n'est pas forcément conseillé de faire un test antigénique.
Personne à risque, oui, ça peut être des personnes affaiblies qui ont déjà des pathologies. Ce qu'il faut absolument, c'est cibler quand même parce que les tests, on n'en a pas beaucoup. On est même en ce moment en rupture. Tous les pays sont demandeurs en même temps. On n'a pas fait de stock. Et moi, je vois, j'ai des stocks. Et pour l'instant, on a du mal à les écouler.
Ce qui est un petit peu paradoxal, en fait. D'ailleurs, vous avez combien de stocks pour avoir une idée?
Il y a un cafouillage monumental. Et puis, moi, j'en veux terriblement à certains des décideurs qui n'ont pas anticipé du tout cette deuxième vague. Sachant qu'on le savait qu'elle arrivait, on le savait tous. Et malheureusement, elle est là et puis on n'a pas les outils, on n'est pas prêts. Pour l'instant, depuis que le président a donné l'ordre de pouvoir utiliser ces tests rapides antigéniques, on ne sait toujours pas l'appliquer sur le terrain. Qui doit le faire? Comment on est remboursé? Là, pour l'instant, les infirmières, les médecins veulent savoir de combien on est remboursé et où on peut se les procurer. Maintenant, ils peuvent se les procurer, par exemple, chez France Implant. Et ensuite, l'ARS va fournir, si c'est des clusters dans des EHPAD. Bon, les universités étaient aussi en deuxième position, mais pour l'instant, c'est plus le sujet. On a entre 3 et 5 millions de tests en stock.
Sur toute la France?
Pour toute la France, donc c'est pas beaucoup, c'est peu. C'est très peu. Très très peu. Et là, on a importé, moi j'avais anticipé, aussitôt j'avais passé une commande de plusieurs milliers, donc du coup j'en ai en stock. Je savais pas à qui j'avais le droit de les fournir, donc du coup je les fournissais pas de crainte d'avoir des ennuis derrière, quoi. Donc ils sont validés par l'Institut Pasteur, disponibles sur le site du ministère, donc par lesquels ils sont validés, contrôlés. Voilà. Donc c'est vraiment un cafouillage.
Et en tout cas, maintenant, ces tests antigéniques, donc ils ont été, vous l'avez dit, validés par le gouvernement, auprès de qui on peut faire ces tests? Est-ce qu'on le sait?
Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, auprès des infirmières qui peuvent le faire déjà, parce qu'elles sont déjà très très, très prises, il faut qu'elles puissent donc avoir un local pour isoler. C'est simple, hein, on a des personnes qui viennent, qui ont probablement les symptômes. Donc, il faut que ce soit un flux déjà défini, donc on ne peut pas le faire n'importe où. Et certains médecins traitants ne souhaitent pas parce qu'ils disent on n'a pas de cabinet qui est adapté, on ne peut pas faire de flux, on ne peut pas les faire sortir par une autre porte. Donc, du coup, si ces personnes vont venir en salle d'attente, elles vont peut-être contaminer d'autres. Alors que ceux qui venaient, ils ne venaient pas pour la Covid. Donc, ce n'est pas simple à mettre en place. Alors, les pharmaciens n'ont pas non plus le flux parce que je suis allé sur le terrain les voir. Mais on ne peut pas faire ces analyses-là, on n'a pas de salle spécifique, et puis on a peur, on a peur de la contamination. Donc ils peuvent fournir, pour l'instant ils n'en ont pas en stock, donc ils pourraient fournir, ça veut dire que les infirmières iraient chez les pharmaciens chercher les tests, mais ce seraient les infirmières qui feraient les tests.
C'est vrai que la mise en place, on va dire, n'a pas l'air simple, mais alors du coup, quel intérêt est-ce que vous y trouvez à ces fameux tests?
L'intérêt, c'est qu'en fait, en instant T, on aurait pu stopper l'épidémie. C'est ça, c'était ça le... Et comme le disait le président, lui, il avait vu l'outil. Il dit, c'est ça qu'il faut, sauf qu'on tarde à le mettre en place. On peut un instant T isoler même des villages entiers en disant, dans la journée, on teste tous ceux qui ont eu des symptômes ou des cas contacts, et après, on va isoler ceux qui ont la Covid-19. Et on continue à se protéger et on va vraiment stopper cette épidémie. Mais pour l'instant, le déploiement est compliqué.
Ça permettrait de mettre en place une autre stratégie. Du coup, comment, là, qui est-ce que vous visez en fait? Puisque vous dites que c'est compliqué
là,
de démarcher les infirmières, les pharmaciens.
Tous ceux qui sont habilités à faire ces tests, hein, donc les infirmières, les infirmiers, les médecins traitants qui peuvent... les pharmaciens qui souhaitent s'approvisionner, il y a aussi les ambulanciers maintenant, il y a aussi les pompiers. Là, on est en train de voir la stratégie. Il y a des entreprises qui ont des doutes et tout, donc de l'agroalimentaire, et elles souhaitent dépister dès qu'il y a un cas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est si c'est cluster ou pas cluster. Mais là, j'ai posé la question à l'ARS. Comment faire si un chef d'entreprise souhaite faire dépister ses salariés parce qu'il y a eu, par exemple, l'épouse d'un salarié qui a été contaminé, la peur de ramener le virus sur la ligne et puis de contaminer tout le monde. Donc là, c'est une question que j'ai posée. Bon, on pense qu'une infirmière peut être appelée et facturerait à l'entreprise ses actes de dépistage. Parce que derrière, une fois que le dépistage est fait, il faudra faire un enregistrement à partir de la mi-novembre sur un logiciel en ligne.
Donc justement, oui, c'était ma question aussi. Une fois qu'on a été diagnostiqué positif, c'est comme les tests PCR, c'est-à-dire que forcément on est à l'isolement. Et quelle est la suite?
La suite, bon, il y a une partie où on va faire des statistiques épidémiologiques, voir où on en est au niveau de l'épidémie, quel pourcentage de la population est touché, savoir si on va être toujours sur une pente croissante ou décroissante. Quels moyens derrière, parce que là actuellement on sait déjà les moyens qu'il nous faut dans une semaine ou 15 jours. Là il nous faudra beaucoup de moyens, ça on le sait, beaucoup de personnel, beaucoup de consommables pour soigner, dépister, se protéger.
Forcément, parce que j'avais cru lire qu'il fallait ensuite que ce soit confirmé par un test PCR, mais c'est pas forcément le cas.
Auparavant, oui. Alors, moi, ce que j'avais... Bon, j'avais contesté un peu cette méthode parce qu'on fait valider par l'Institut Pasteur un test. À partir du moment où l'Institut Pasteur a validé le test, pour moi, on ne pouvait pas revenir et contredire les résultats. En plus de ça, c'est que le test était validé et enregistré. Donc, l'utilisateur de ce test savait qu'il était fiable. Donc, pourquoi faire un TRA si derrière, il faut refaire un... Donc, on fait un TRA positif, derrière, il faut faire un RT-PCR. Ça sert à quoi? On repère du temps, puisque de toute façon, le virus était dans la personne. Donc, ça servait à quoi de refaire deux fois le test, sachant qu'on est en pénurie de tests et on est en manque de personnel. Donc, maintenant, c'est plus la réalité. Dès que le TRA est fait, il fait foi. Bon, la personne va être enregistrée. Et il va y avoir un suivi médical derrière. S'il y a des complications, derrière, il y aura une analyse de la charge virale au RT-PCR. Donc ça a changé depuis une semaine.
Pour justement éviter, comme vous le disiez, les labos qui sont déjà surchargés. Avec les autres tests.
Bah oui, et puis ils n'ont pas arrêté depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, qui ont même contracté le virus. Donc les effectifs, le personnel est épuisé. Hein. Donc à un moment... On ne peut pas toujours tirer sur la corde. Hein. Les infirmières sont fatiguées aussi, elles le disent bien. Hein. Elles ont donné beaucoup et elles ne s'attendaient pas à avoir une reprise pareille.
Là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce que vous espérez, vous, avec ce stock de tests, les écouler, j'imagine?
Oui, surtout, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on arrive à devancer l'épidémie, ou en tout cas être synchronisé pour mettre d'autres plans d'action. Une fois qu'on a identifié ces porteurs, le virus, si on arrive à éliminer le virus ou l'épidémie, on aura beaucoup moins de gens contaminés. Et puis naturellement, après le changement de saison, il y aura d'autres virus dans l'air, etc. Donc il va s'affaiblir.
Donc l'idée, oui, ce serait d'agir avant qu'on ne contamine les autres, en tout cas.
Il faut vraiment être synchronisé et diminuer le nombre de cas positifs. Là, moi, j'ai du mal à comprendre comment on a pu être repris, mais à cette vitesse, quoi. C'est vraiment très rapide, quoi. On dirait presque qu'il est beaucoup plus contagieux que le précédent.
Et c'est pour ça, en tout cas, que vous, personnellement, vous avez décidé, donc là, aujourd'hui, de vous équiper avec ces tests, c'est pour ça?
Ces tests, c'est surtout pour aider les infirmières en local. Et puis, je me doutais bien qu'on n'aurait pas, on serait les derniers servis hein, dans les campagnes, hein, parce que souvent, les grandes villes d'abord. Donc, en important directement et en validant directement, moi, je savais que je pourrais être en position rapidement des tests. Et que sur le déploiement rural, je pourrais très rapidement distribuer ces tests. Là, je suis en contact avec plusieurs centres où on va peut-être faire des centres de dépistage pour aider la population, avec des infirmières locales pour l'instant. Et ouais, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aussitôt se dépister, quoi, qu'on arrive à diminuer le nombre de malades.
Et vous avez déjà une idée de d'où pourraient être ces six centres de dépistage?
Oui, les centres seraient sur Évron, Ernée, donc la mairesse est aussi informée. On recherche des infirmières et puis comment le mettre en place. J'ai demandé aussi sur Mayenne, Laval, Château-Gontier. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu de réponse. Et ce sont souvent des infirmières libérales qui répondent à mes demandes. Et sinon, les maisons de santé, je n'ai pas de retour. Si on a les tests dans 3 semaines, il sera trop tard. Hein. C'est actuellement qu'il faut vraiment la casser, l'épidémie. Dans mon entourage, depuis vendredi, il y a beaucoup de cas et on ne s'attendait pas à ça non plus. Et c'est pas dans 3 semaines qu'il faut réagir, là, c'est maintenant.
Donc d'où effectivement l'intérêt d'agir vite. Merci beaucoup vite. Frédéric Classet d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que vous êtes le gérant de France Implant qui s'est engagé en tout cas à distribuer des tests antigéniques rapides dans le département. I need dollars. Give me money. Dollar bills in the bank. Sitting on the side with my head is in my hands. Everybody on the work to work and I stay. New generation, I'm an old boy in the house. Nothing left here after this, I'm out. Period. I'll be waiting for the next song to pay the bills and make someone answer one of my calls, but I can't cry. I'm still breathing. I paid a price. I know I'm out of money. I'm
misunderstood. How you making fun of me was the time to lose. Everything you have is no mine anymore. They got my shoes, my car, my heart, my dogs. I prayed, I followed your rules. I knew there were risks, now I'm screwed. Start from the bottom, from one mistake you can sink. It's a chance to stay. I know. Proceed light and bright. Morning for more seasons. I'm strong enough not to play games. I'm addicted. I need to win games. Drop my gold digger ego. Not thinking idiot. Double. I'm gonna bag it. I know.
C'était Lire le temps avec le morceau Brocopolis. Hormis l'alimentaire et quelques exceptions pour du bricolage ou de l'informatique, tous les petits commerces sont fermés depuis le 30 octobre dernier. Autant dire que l'activité est à l'arrêt, ou en tout cas bien freinée, dans le centre-ville de Château-Gontier. Et pourtant, avec le click and collect et la bonne volonté des professionnels, vous pouvez continuer à acheter local. Rentrons aujourd'hui dans la boutique des créateurs, qui réunit bijoux, sacs ou livres. Au moment où nous avons interviewé Brigitte Duro-Vallée, créatrice et trésorière de l'association Les Chouettes Miss Créa, l'association qui gère la boutique, une cliente était justement en train de partir.
Elle a acheté un livre qu'elle cherchait depuis longtemps et en fait, elle n'avait pas pensé qu'on pouvait l'avoir. Et du coup, ben, elle l'a trouvé sur Ma Ville, Mon Shopping. Donc, c'est pas mal parce que finalement, cette personne-là n'avait pas pensé venir ici pour acheter ce livre. C'est bien sûr compliqué parce que c'est une période où normalement, on vend beaucoup, quoi, en prévision de Noël. Donc, il a fallu s'organiser. On a créé une boutique sur le site Ma Ville, Mon Shopping. On passe pas mal de temps, on diffuse pas mal de choses sur Facebook, ce qui permet aux personnes qui souhaitent acheter quelque chose de nous contacter via ce créneau-là. Et du coup, on fait du drive. Voilà. Mais bon, c'est clair que ça ne remplace pas l'ouverture physique de la boutique. La boutique est fermée. Là, c'est exceptionnel. Je suis venue parce que j'avais une livraison. J'ai ouvert sur un créneau d'une demi-heure à peu près, quoi. Ouais. Pour l'instant, on a fait très peu de ventes. Et bon, on espère qu'effectivement, avec nos parutions assez fréquentes, enfin quotidiennes d'ailleurs sur Facebook, que ça va effectivement développer les ventes. Mais ce qu'on souhaite, c'est rouvrir rapidement, quoi, en fait. Pouvoir rouvrir rapidement, mais comme tous les petits commerces. Déjà, si on peut ouvrir le 1er décembre, à partir du 1er décembre, ce serait déjà bien, quoi. Parce que c'est vrai, ce qu'on constate à Château-Gontier, c'est que les cadeaux de Noël se font relativement tard. Donc, on commence quand même à vendre pour Noël en novembre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le gros des ventes, c'est quand même décembre, quoi. Donc, on espère fortement ouvrir le 1er décembre. La particularité de la boutique, c'est que c'est une boutique associative de créateurs. Donc, nous sommes aujourd'hui 11 créateurs. C'est aux créateurs de, entre guillemets, prendre en charge la gestion de la boutique. Pour nous, il va certainement y avoir des répercussions financières parce que on a déjà perdu d'activité au mois de mars, enfin mars-avril. On commençait juste à s'en sortir, c'est-à-dire qu'on avait bien rattrapé, on était plutôt contentes. Et là, comme je vous disais, novembre c'est quand même un mois important, même si c'est quand même décembre qui est le plus important que novembre. Donc il va forcément y avoir un impact sur notre situation financière. Oui. Pour les créateurs, c'est quand même la période où ils font beaucoup de marchés de Noël. Tout est tombé à l'eau, quoi. Donc, il y a un gros impact financier, oui. Même si les ventes se sont concentrées sur décembre, il nous faut du temps pour créer. Donc, ce n'est pas évident non plus de savoir quel stock on a besoin. Enfin, voilà, c'est compliqué hein, de tout concentrer sur une courte période. C'est la motivation là, qui est un peu en berne. Voilà, c'est ça.
Continuer à proposer de nouvelles créations et à satisfaire les clients. D'une autre manière, c'est aussi l'objectif de l'équipe du restaurant Le 2M, ce sera l'épisode de demain. Et c'est désormais l'heure de notre rubrique autour des belles initiatives du jour, une rubrique habituelle désormais en fin d'émission avec Claire, et on parle des équipes du Crous de Nantes, Pays de la Loire, qui restent mobilisées.
À Laval, le Crous assure un service de restauration tous les midis pour l'ensemble des étudiants du territoire. Le restaurant universitaire Aubépin à l'IUT de Laval reste ouvert de 11h à 15h. Pour se rendre sur place, les élèves doivent se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire en choisissant « déplacement » pour effectuer des achats de première nécessité. Le menu Easy est aussi adapté, initialement limité à un passage par service. Les élèves pourront, pour cette période, pouvoir prendre plusieurs menus à midi pour pouvoir en profiter lorsque le restaurant sera fermé.
À Cossé-le-Vivien, le service jeunesse s'adapte.
La maison des jeunes est ouverte le mercredi, mais pour les raisons sanitaires, a fermé ses portes le week-end. Pour garder le lien avec les jeunes, le service jeunesse propose deux rendez-vous en visioconférence, demain, mercredi 18, et mercredi prochain. Demain, deux activités prévues, cuisine chez toi avec Coralie et une réalisation d'un calendrier de l'Avent avec Cindy. Pour mercredi prochain, de la modélisation avec Denis et de la magie avec Lilian. Vous pouvez vous inscrire au 06 42 78 25 69.
Et à Laval, voilà qui va faire du bien, une visioconférence pour rire.
Et oui, Elena Lauré anime des cours de yoga du rire. C'est une activité physique qui consiste à provoquer le rire sans les mots. Le cerveau libère des endorphines, ces substances qui nous font du bien, explique-t-elle. Pendant le confinement, elle propose donc ses séances via la plateforme Zoom, ce qui ne change rien à l'efficacité de l'activité. On serait même moins gêné car seul face à son écran. En tout cas, rendez-vous mercredi prochain pour une bonne séance de rire à 18h30. Les informations pour s'inscrire sont à retrouver sur leur site Club du Rire 53.
Et on termine avec une idée gourmande du cinéma Le Vox à Mayenne.
On le sait, les cinémas restent fermés pendant cette période, mais cela n'empêche pas la page Facebook du cinéma Le Vox d'être très active, notamment en proposant les recettes des films cultes. Et oui, vous y retrouverez la fameuse soupe au chou, la pizza au chamallow des Tortues Ninja, le burger à l'ananas de Pulp Fiction, bref, de quoi s'occuper en attendant de retrouver ces grands classiques dans un cinéma.
Ouais, je suis pas très sûre pour la pizza au chamallow pour le coup, mais ça me tente moyen. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée de cinéma Le Vox à Mayenne. Et puis, donc Claire, tu parlais de Facebook. On est aussi évidemment sur Facebook, l'autre radio. Et n'hésitez pas à contacter notre répondeur pour plus d'initiatives, parce qu'on en parle à chaque fois en fin d'émission. Mais évidemment, on peut pas être exhaustif. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour en parler au 09 70 40 59 40. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local. Merci Claire d'avoir été avec nous.
Merci Marie, à demain.
Et à demain, bien sûr, bonne fin de journée. Et puis à suivre évidemment sur l'antenne, restez avec nous, puisqu'à 20h il y aura The Voice of Cassandre. Et à 21h, pause classique autour de la musique du film Les Sept Mercenaires d'Elmer Bernstein, réorchestrée par James Horner, entre autres. Et donc vous l'avez compris, la prochaine quotidienne, c'est à 12h15, comme d'habitude. Bonne fin de journée et à bientôt.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.